Bienvenue dans Les Centres Passagers, une émission de Virgile Fraisse, montée par Arnaud Ledoux, mixée par Valentin Fleury, en coproduction avec la radio DU. Nous vous proposons d'écouter le portrait de centres d'art contemporain français, mis en difficulté ou ayant disparu. Les Centres Passagers se veut être la mémoire de ces espaces temporaires, d'histoire d'art, de projets poétiques, radicaux ou engagés. Pour cette première saison, 4 centres d'art, 4 épisodes, une ancienne usine d'embouteillage, une église désacralisée, une ex-caserne militaire et une ancienne chaudronnerie. Situé au cœur de la ville de Chelles, le centre d'art contemporain Les Églises, fermé en 2015, a récemment rouvert dans une nouvelle formule, en plus petite équipe. Nous suivons aujourd'hui les récits croisés de son ancien directeur, Éric Desgouttes, et de son programmateur actuel, Renaud Caudron. Écoutez, aujourd'hui, Les Églises de Chelles.
Alors moi, je suis arrivé en 2009, peu de temps après l'ouverture officielle, en tout cas l'inauguration du centre d'art qui était en 2008. Et j'ai commencé, à ce moment-là, j'étais à mi-temps sur l'école municipale d'art plastique et le centre d'art pour les missions, ce qu'on appelait à l'époque le hors les murs. Donc ça recouvrait des projets qu'on faisait en école principalement et aussi les missions d'accueil des classes. J'ai fait ça jusqu'en 2015. Ça a été un grand morceau d'apprentissage, beaucoup de rencontres, à la fois avec l'équipe à l'époque évidemment, les plasticiens intervenants comme moi, Anna Apostolska, Emmanuel Durand-Morès, et aussi l'équipe de direction, donc Éric Desgouttes évidemment, Aurélia Vesperini, et puis d'autres, Mathieu Blanchard à la régie, et Antoine Aupetit aussi, qui était en coordination à cette époque-là. Voilà, pour ne citer qu'eux, et Faustine Douchin, je vais pas oublier non plus la communication.
Moi, je suis plasticien de formation. Et pendant de nombreuses années, j'ai produit des œuvres, exposé, bénéficié de résidences artistiques et participé avec plein d'artistes à la mise en œuvre d'expositions dans des lieux divers et pas forcément déjà structurés, plus des friches ou des espaces un peu en devenir. J'avais accepté en fait un poste de coordinateur d'une école municipale d'art plastique à Chelles pendant quelques temps, simplement dans une approche plutôt alimentaire d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que la ville hérite entre guillemets de ces églises, c'est-à-dire que ces églises sont très anciennes bien évidemment, étaient abandonnées, étaient restées sous forme de ruines. Et c'est en 98, paradoxalement, que le ministère de la Culture, qui a classé ces bâtiments en 84, décide d'engager une procédure de restauration. Se pose alors la question de l'usage. Tout bâtiment qui est aujourd'hui restauré l'est par l'usage qui se justifie, en tout cas par l'usage qui va s'y développer.
Depuis la destruction de l'abbaye de Chelles, elles sont reclassées, donc elles sont conservées à ce moment-là par les révolutionnaires parce que petites, et avec un format laïcisable, entre guillemets, donc elles échappent finalement à une destruction un peu globale à ce moment-là. Je crois que elles sont transformées en commerce, grange, logement, enfin, un peu tout n'importe quoi. Et puis finalement, tant mieux, parce que ce qui fait qu'elles ont traversé les siècles. Et puis finalement, classées, je crois, en 1984, restauré d'abord par l'association Massac et puis ensuite entièrement restauré là pour le coup de façon un petit peu sur le bâti et en 2005 je crois la livraison de la commande publique, donc là le travail de Martin Zekeli et Marc Barani qu'on peut admirer encore aujourd'hui avec les vitraux, le portail, le parvis, etc.
C'est à ce moment-là que je propose d'en faire un lieu d'exposition et l'idée s'amorce finalement d'un lieu qui serait un centre d'art. Mais il y a beaucoup d'étapes à franchir pour le mettre en place, puisque quand un bâtiment historique est déclaré apte à une restauration, c'est qu'il y a un projet d'aménagement du lieu qui est déposé par un architecte des monuments historiques, Et donc, on hérite en ce moment-là, la ville, le service culturel, moi-même, on hérite d'un lieu, mais qui est déjà fortement connoté par les aménagements qui sont proposés, avec un sol, des tomes, des dalles au sol, des poignées en cuivre, des candélabres, des vitraux évidemment colorés, sans savoir trop quelle figure encore on va y mettre, etc. etc. Bref, le projet refait ressurgir une église dans sa physionomie, et bien évidemment, ça indique grandement les usages qui peuvent s'y développer. Lorsque je rencontre le représentant de la DRAC, donc Jean-Yves Bob, à l'époque, pour évoquer l'idée d'en faire un centre d'art, que très vite on évoque le principe des aménagements qui sont prévus, on se rend compte et on confirme en fait qu'aucun de ces aménagements n'est propice finalement au projet que pourrait porter le lieu. Et donc, c'est à ce moment-là que Jean-Yves Bob engage finalement la procédure de commande publique dont j'ai parlé tout à l'heure avec Martin Zekeli et Marc Barani. Et c'est un long combat pour faire finalement ce qu'on appelle une réduction de travaux, c'est-à-dire que sur une phase d'aménagement d'un bâtiment historique, on sollicite le non-achèvement de la restauration au principe d'un autre aménagement. Donc vous imaginez que pour l'architecte qui avait défini le premier projet, c'était un peu dur à avaler. Ça a été long. On a obtenu finalement gain de cause par la valeur de la proposition de Martin Zekeli, de Marc Barani, et par la cohérence qu'il y avait avec le projet artistique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est ce qui a permis finalement de créer les conditions d'un aménagement propice à un lieu d'accueil neutre, capable de laisser les artistes s'exprimer sans tirer leur travail vers une forme ou vers un sens particulier, ce qui, dans le cadre d'une architecture religieuse, n'est pas si simple que ça. Donc le cheminement, l'organisation, l'espace, il y a vraiment quelque chose de particulier. C'est un geste artistique, en fait, qui a redonné vie au lieu. Et donc, il y avait cette capacité générée par la commande publique de le traduire à travers, finalement, le principe de les transformer en un lieu de découverte et du regard. Et c'est ce qui a amené Martin Zekeli à choisir de faire des vitraux absolument transparents, qui ont été une grande discussion avec le service des monuments historiques, qui avait du mal à comprendre le principe artistique proposé par Martin Zekeli. Donc ça a été une bataille d'arguments assez assez forte. Il y a une histoire qui s'est construite en fait. On était donc dans une ville de banlieue. Comme je l'ai dit, c'était un projet qui s'est fait un peu par opportuniste, hein, avec l'arrivée de ces espaces, la nécessité de définir un usage, la possibilité de voir un outil finalement de valorisant des politiques culturelles, qui était un élément quand même structurant de l'équipe municipale qui était en place depuis deux mandats, je crois, à l'époque. C'était une municipalité de gauche avec la volonté, une forte volonté d'aller dans le sens d'accompagner la création dans ces pratiques émergentes. D'une part, il y avait une école municipale d'art plastique, donc j'y étais en situation à ce moment-là. Il y avait aussi une scène de musique actuelle qui s'est créée. Le Centre d'art contemporain est venu conforter ce principe-là et surtout il s'est appuyé sur une dynamique très forte d'action territoriale, c'est-à-dire qu'on a construit une histoire et on a construit un public autour des églises et peu à peu c'est devenu une évidence dans les formes de vie qui pouvaient être liées à ce lieu de diffusion. Quand je parle de formes de vie, c'est notamment toutes les formes d'accompagnement en direction des scolaires, des écoles, collèges, lycées, qui, en banlieue, ne sont pas forcément dans une situation de proximité immédiate avec un espace de création, la possibilité de rencontrer des artistes.
Mes missions, du coup, c'était principalement la question de la pédagogie. J'étais là en tant qu'enseignant, hein, principalement. Donc c'était cette justesse du projet aussi d'avoir inclus en fait en interne dans le fonctionnement du centre d'art une équipe d'enseignants plasticiens intervenants ou enseignants d'art plastique en tout cas sur l'école. Et du coup cette spécificité, ça nous permettait de développer vraiment à la fois donc à l'année des projets en école en lien avec l'éducation nationale. Et surtout aux églises, d'avoir vraiment cette récurrence d'accompagnement, hein, parce que l'idée c'était vraiment qu'à chaque exposition on sorte un atelier spécifique, singulier, qui était pensé pour le lieu, un peu comme l'expo finalement, les artistes venaient découvrir les églises, penser un projet un peu sur mesure, et quelque part l'atelier accompagnait l'aspect sur mesure de la proposition artistique.
L'équipe qui était avec moi, donc c'était une petite équipe, que des plasticiens. C'est aussi peut-être une clé de lecture de ça. Partaient chaque matin dans leur voiture, sur le territoire et sur les territoires adjacents à la ville, engager des actions, des projets sur des présences plus ou moins longues dans des écoles, des collèges, etc. Et ont finalement construit une identité, tout un drainage des publics vers le lieu, qui s'est conforté ensuite par le public libre, qui est venu découvrir les expositions, voir les installations. Sur le plan politique et sur la stratégie culturelle, en termes d'action territoriale, la ville n'était pas très pas indifférente, mais en tout cas, elle a eu le mérite de créer les conditions, finalement, pour que ça puisse se faire, mais sans trop mesurer l'impact et l'importance que cela pouvait prendre.
Bah, pour reprendre la genèse un peu du projet, moi, je remonterai un peu avant l'échéance électorale. Donc, les élections municipales de 2014, il y a eu un article... Je crois que c'était un an avant, autour d'une exposition qui a été un peu le signal. C'est-à-dire que nous, au niveau de l'équipe, on a entendu qu'à cet endroit-là, on réinterrogerait probablement le projet, quel que soit le résultat des échéances. Le maire qui était à place à ce moment-là, qui réinterrogeait justement le côté un petit peu trop intellectuel, je dirais, notamment d'un titre qui était... Isotropie de l'ellipse de Thor, pour la citer, de Julien Claus, une expo qui parlait d'un projet sonore, en fait, assez ambitieux d'ailleurs, qui était très beau dans l'église Sainte-Croix. Et du coup, ce propos comme ça du maire dans Le Parisien avait été un peu comme un avertissement sur le projet, en tout cas. Nous, on nous avait fait comprendre qu'il y aurait probablement, quelle que soit l'élection, un petit rectificatif ou en tout cas une réduction de la voilure sur les effectifs ou sur la dépense du projet, quoi. Ça, c'est donc un an avant l'élection, je dirais. Et après coup, alors c'est vrai que du coup, des fonctions que j'occupe aujourd'hui, j'ai peut-être une lecture un peu plus élargie que ce que je pouvais en percevoir à l'époque. Et alors, j'ai pas tout à fait les dates, mais je sais qu'il y a eu... sorte de concomitance avec les échéances électorales de 2014, il y a eu la baisse des dotations de l'État, je crois que c'était en 2012, et je crois que sur Chelles, ça représentait entre 7 et 8% du budget de la ville, donc plusieurs millions d'euros, et effectivement, pour les maires, quel que soit, enfin, avant ou après 2014, il fallait revoir un peu peut-être la politique municipale. Donc ça, voilà, c'est une lecture aussi, après coup, qui laisse peut-être dans une perspective entre l'article du Parisien, la baisse des dotations, et puis finalement le changement de bord à ce moment-là en 2014. C'est un contexte politique qui est pas évident, en tout cas qui est pas favorable forcément au projet comme on l'a connu, quoi. Nous, du coup, à ce moment-là, ce qu'on en comprend, c'est que le maire, déjà, je crois, dans son programme ou dans sa profession de foi, évoquait déjà le projet du Centre d'art contemporain. Alors, il l'évoquait en creux, c'est-à-dire qu'il évoquait surtout les églises, donc plus le lieu, comme une réappropriation du lieu par les Chélois. En tout cas, c'était un peu la ligne que le maire, du coup, nouvellement élu, sur laquelle il avait fait campagne. Nous, à ce moment-là, du coup, très clairement, il n'y a aucun doute, quoi. Au sein de l'équipe, on sait que de toute façon, c'est fini. Le projet n'ira pas au-delà. Et ce qui finit d'achever la question de nos espoirs ou d'un éventuel projet, c'est l'annonce du départ du directeur. Donc à ce moment-là, je crois qu'on est au mois de mai. Et à ce moment-là, Eric nous annonce son départ avec les congés. En gros, fin juin, il est parti, quoi. Donc là, juin 2014, on se retrouve du coup sans direction, avec un projet plus que menacé, ou en tout cas, la nouvelle municipalité ne souhaite pas reconduire le projet. Donc il reste une saison qui avait été programmée par Eric. Donc en gros, je crois que c'est la saison 7. 2014-2015, on va prolonger le projet. L'équipe va accompagner du coup les quatre artistes de la saison jusqu'à Non Football Club en juin 2015. sans direction, ou en tout cas une direction par intérim, du coup par Aurélia Vesperini qui prend le relais et qui, tant bien que mal, essaye de discuter entre le directeur de cabinet, les DGA, enfin voilà, l'administration de la mairie à ce moment-là. Alors après, on est convoqué par le directeur général des services, je crois au mois de mai, toute l'équipe, donc en mai 2015. Des personnes sont parties depuis. Antoine Aupetit, qui était coordinateur, assistant à la coordination, avait pas souhaité renouveler son contrat. Et puis bon, voilà, fin du film, quoi. C'est le clap de fin terminé. Tout le monde descend, quoi. Voilà.
Pourquoi ça a fermé? C'est une décision politique. Je crois qu'elle est très claire, elle est très simple à comprendre. C'est aussi la légitimité des échéances électorales. Les projets politiques peuvent se succéder sans s'inscrire dans un principe de continuité. Alors, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. C'est le jeu de la République, il faut savoir l'accepter.
Alors du coup, là on est en juin 2015. À ce moment-là, donc il y a un changement aussi au niveau de l'organisation, de l'administration. Il y a un nouveau directeur des affaires culturelles qui arrive, Sylvain Collas, pour le nommer. Et Sylvain Collas, du coup, se retrouve avec toute la délégation arts plastiques, tout le service des arts plastiques laissé vacant avec le départ d'Éric, dans son service, quoi. Donc forcément, c'est beaucoup de travail, beaucoup de structures, parce qu'il y a l'école d'arts plastiques, il y a les églises, bien évidemment. Et puis il y a toutes les actions autour qui n'étaient pas forcément visibles, dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, un projet qui va essayer de se retrouver entre, en gros, 2015 et 2018, une continuité dans la discontinuité. En tout cas, on l'a bien compris, hein, le projet Art Contemporain s'est arrêté. Donc des expositions, un partenariat avec la Ferme du Buisson qui va voir le jour. Alors, pas le Centre d'Art Contemporain, hein, la Ferme du Buisson, la scène nationale. Et donc, du coup, des expos, on va dire, à dimension plus locale. Voilà, c'est la volonté du maire, du coup, qui se met en œuvre. Effectivement, il fait arrêter le projet de Centre d'Art Contemporain. La volonté au niveau politique, c'est avant tout une dimension locale pour les églises. Alors, paradoxe, on l'a un peu évoqué, c'est que la dimension locale a été extrêmement présente, à une autre échelle évidemment, mais à l'époque, je vais pas rentrer dans les chiffres, mais à l'époque du centre d'art, c'était des centaines et des centaines de classes, du coup avec un rayonnement vraiment sur le public, les enfants chélois qui venaient voir, qui revenaient, enfin là nous on le voit aussi, qui revenaient du coup avec leurs parents, et aussi beaucoup d'intervention en classe directement, toute cette partie finalement, la partie un peu immergée du projet, qui elle a vraiment fait les frais, c'est-à-dire que finalement ça aurait pu être un élément de démonstration finalement de l'ancrage au territoire du projet, qui finalement, par son absence, a fini par disparaître, en tout cas son absence de visibilité a totalement disparu.
Là où les choses ont été un peu plus délicates, c'est que c'est aussi la manière dont s'est accompagnée cette décision politique, dans une forme de rigueur, presque à la limite de la brutalité par rapport à l'équipe qui était encore en place, dont Renaud Caudron, qui faisait partie de cette équipe et qui a été resollicité il y a un an ou deux, je crois, par la municipalité pour en fait reprendre un peu une dynamique autour de l'école municipale d'art plastique, mais aussi en termes d'exposition.
Bah en fait, j'ai pas été rappelé. C'est peut-être aussi un des points qu'il faut souligner. Moi, je suis revenu, en fait, j'étais pas très loin. J'avais donc pendant 3 ans, je m'étais reclassé, comme on dit, et j'avais finalement, depuis un an, j'avais retrouvé un poste d'enseignant dans une ville voisine d'art plastique. Et finalement, c'est ma collègue, de l'école, qui me dit, mais tu sais qu'HL, ils recherchent quelqu'un, responsable aux églises, tu devrais contacter Sylvain, je pense que les anciens de l'équipe, ça pourrait l'intéresser, etc. Donc du coup, je l'appelle, quoi. J'essaie de comprendre. Forcément, moi, je suis resté quasiment 7 ans ici. J'ai un attachement quand même particulier. Et puis, c'est vrai que on l'a dit tout à l'heure, quoi. La fin du projet, moi, je l'avais pas vraiment accepté, quoi. Il y avait un truc qui pouvait encore se jouer, quoi. J'avais vraiment l'impression que la partie était pas totalement terminée, quoi. En tout cas, pas au niveau artistique ou au niveau politique, hein. C'est, mon attachement, il est plus envers le lieu, je crois. Il y a vraiment un truc, le niveau politique entre l'élu et les administrés, il est direct. Le maire, il est au contact, il est sur le terrain. Enfin, il rencontre en permanence les électeurs potentiels. Je pense que c'est cette distance-là qui soumet un peu ce type de projet, mais quel qu'il soit, pas forcément les centres d'art, hein, qui soumet finalement la personnalité du maire dans une espèce de, pas dire d'élection permanente, mais grosso modo, il y a un jugement un peu permanent des actes. Alors les mandats sont assez longs sur la municipalité, mais quelque part il y a quelque chose de cet ordre-là. Le fait d'être en direct comme ça, ça joue. Alors effectivement, il faut un courage politique peut-être sur ce type de projet, en tout cas plus aujourd'hui, clairement. Le contexte a évolué, hein. La façon de penser l'art, de consommer l'art, de voir de l'art tout simplement a aussi changé. Donc finalement, moi je dirais que d'un point de vue systémique, est-ce que, si on parle de 2005 pour la préouverture, mais finalement la conceptualisation du projet, elle est quasiment du 20e siècle. Est-ce que finalement c'est pas ça, la vraie rupture, au-delà des échéances politiques? Est-ce que c'est pas une façon de penser l'art qui nous vient des années 80, la grande commande publique sonnante et trébuchante qui déploie des projets qui décentralisent à coup de millions, etc. Et aujourd'hui, à part recentraliser toujours plus loin, et j'en sais rien, je ne vais pas tirer de conclusion non plus là-dessus, mais en tout cas, moi, de mon fort intérieur, l'État n'a plus les moyens, clairement, de cette politique-là. Je pense que le retrait progressif de ces moyens a amené, du coup, les élus locaux à prendre ses responsabilités quasiment en direct, ou en tout cas de les assumer en direct. Et après, selon la manière dont le projet a été pensé, maillé, porté et médiatisé, là aussi, on rentre encore dans une strate systémique qui tient quasiment à la personnalité de la direction, on peut le dire. Et pas Michel, hein, évidemment pas. Hein.
Il semblerait qu'aujourd'hui, cette histoire soit suffisamment saillante pour que la ville réenvisage en tout cas une continuité d'action autour des églises. Alors, c'est plus un centre d'art. Il y a la volonté de temps en temps de faire quelques expositions et de réamorcer finalement, de garder un fil tendu avec cette histoire première qui a été pourtant l'enjeu de leur décision de fermeture du site. Donc, il y a une construction qui s'est faite.
Donc, moi, mon titre, c'est responsable du pôle art visuel. Donc, à ce titre-là, du coup, j'ai les églises, un lieu qu'on a souhaité ouvrir, qui est d'ailleurs que je souhaiterais un peu développer, qui est la galerie éphémère, et l'école municipale des arts plastiques, autrefois centre d'art plastique. Voilà. Et aussi des résidences en milieu scolaire, mais ça rentre dans les mêmes missions. La galerie éphémère, du coup, petite parenthèse quand même un peu par rapport aux églises, on l'a souhaité vraiment comme le lieu amateur, en tout cas qui rend la part belle aux pratiques amateurs locales. C'était aussi finalement, on le dit un peu comme ça, le paratonnerre pour les églises, c'est-à-dire que finalement, en ouvrant la brèche, après le monolithe que pouvait représenter le centre d'art contemporain, d'ouvrir à tout vent, ça a généré aussi beaucoup d'attentes. Donc la création de ce projet de galerie éphémère finalement est venue vraiment comme un petit vent de fraîcheur comme ça sur la ville, d'autant que ce lieu est vraiment en plein centre, sur l'axe principal de la ville, en plein centre-ville, avec une grande vitrine. Donc ça, c'est très bien, je pense que les artistes locaux ou en début un peu de carrière ou qui redémarrent quelque chose sont très heureux d'exposer là, et finalement plus qu'aux églises, parce que c'est vrai que même si cette architecture consacre évidemment les œuvres qui y sont montrées, il est un petit peu en dehors de la ville, on a un peu du mal à le trouver. Bon, il y a cette vitrine avec les vitraux justement, mais bon, tous les autres murs sont un peu gris, sombres, enfin voilà, on voit pas bien où c'est. Alors que la galerie éphémère, finalement, elle est très très bien identifiée. Elle a trouvé son public aussi. Dans le même temps, on avait développé sur les coques commerciales, parce qu'à l'origine, c'est ça le début du projet. L'idée, l'astuce, c'est que dans le centre-ville, il y a des coques commerciales qui restent vides, avec le fameux droit de préemption des municipalités. Et du coup, pendant cette période où la coque est vide, la ville a décidé, donc là, pour le coup, d'installer une galerie orientée sur les pratiques amateurs. Et dans le même temps, on avait ouvert l'atelier éphémère. L'atelier éphémère, durée de vie, tu vois, ça fait 2 ans et demi que la galerie éphémère est ouverte. L'atelier est resté 6 mois. Voilà, contre-pied du projet de la galerie éphémère. On cherche des artistes, on en fait un run space. On revient un peu art contemporain, des jeunes artistes. On leur donne un peu les clés du projet. Très rapidement, la question de la présence régulière est interrogée. Forcément, la galerie, il y a une récurrence d'événements, de vernissages, le lieu tourne, tu vois. L'atelier, bon, est-ce que l'artiste vient travailler ou pas? En plus, il y a une grande vitrine, donc tout le monde peut voir. Bon, c'est pas toujours évident d'être en vitrine pour travailler, etc. Puis finalement, les artistes adoptent un peu, ils font aussi des vernissages, tu vois, tous les un mois et demi. Donc voilà, on tombe dans un principe un peu d'événement comme ça. Et bon, ça plaît pas. Voilà, esthétique, art contemporain, tu vois, 3 ans après, bim, les pieds dans le plat, on réinterroge à nouveau cette problématique de l'esthétique contemporaine. Bon, moi du coup, en tant que responsable, enfin tu vois, un peu intermédiaire, je rentre dans mon rôle, j'essaye de trouver un point de consensus, ou en tout cas de faire entendre un peu quel serait potentiellement Eh ben, je veux pas caricaturer, je vais pas tourner autour du pot, au plus j'essayais de négocier ou en tout cas de sensibiliser aussi les artistes à cette question-là, au plus ils se sont renfermés sur des questions, sur une radicalité. C'est-à-dire que finalement, au plus on essayait de parlementer, au plus on claquait la porte au nez et pour finir, on a laissé le lieu avec un transat complètement vide. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y a une incompréhension à plusieurs endroits de la chaîne. C'est-à-dire que ce serait... réducteur, c'est pas, ce serait naïf ou trop facile finalement la politique, mais c'est réducteur finalement de prendre le problème que par le directeur, que par les élus ou que par les artistes, tu vois. Il faut essayer de connecter un peu la chaîne de ces acteurs-là, redéfinir le contexte, c'est-à-dire que là, tu vois, nous, quand on ouvre cet atelier éphémère, on est 3 ans après la fermeture du Centre d'art contemporain. On fait un peu un pari, tu vois, on essaye de faire revenir un collectif d'artistes sur un mode de fonctionnement un peu autonome. Bon, ben, patatras, le truc, on se prend les pieds dans le tapis, voilà, et le truc a fermé 6 mois après.
L'idée d'envoi à un lieu d'exposition était en soi l'élément premier. Le fait que ça soit un centre d'art et que ce centre d'art s'affirme de plus en plus, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas forcément... prémédité et sur lesquels c'est pas forcément approprié le sens du projet. C'est, je crois, ce qui a fait la faiblesse finalement des églises, c'est cette friabilité du projet politique qui fait qu'à un moment donné, des doutes ont été perceptibles et le renouvellement de l'exécutif au gré d'un calendrier d'élection municipale a fait que la nouvelle équipe en a profité pour très vite remettre en cause ce projet-là. Elle l'avait annoncé d'ailleurs avant même les élections. C'est vrai que le terme contemporain, ils l'ont banni. Pour eux, c'était quelque chose qui n'était pas en attente dans la dimension populaire d'un lieu d'exposition comme ils l'envisageaient. Dès lors qu'un lieu comme celui-ci se structure sur un projet, c'est évidemment le projet qui qualifie à la fois l'esthétique, les formes, les principes, l'approche critique qui est portée. Tout ça, ils n'en voulaient pas, en fait. Ils voulaient juste un lieu d'exposition pour faire aussi librement qu'ils le voulaient, des expositions à la fois à caractère informatif ou des expositions liées à des pratiques amateurs ou des expositions d'artistes qui, pour eux, dans un critère qui reste à leur décision, sur lequel ça serait intéressant, quelle esthétique ont-ils derrière tout ça, ça faisait valoir d'exposition. Je vais vous donner une anecdote qui m'a semblé extrêmement révélatrice de la brutalité avec laquelle ils ont effacé la donnée contemporaine dans le projet. On avait à l'entrée du centre d'art un grand panneau sérigraphié qui était lié aussi à une très belle collaboration avec Frédéric Trichner. Je garde un souvenir très ému de Frédéric qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait fait une remarquable charte graphique qui a été importante pour la reconnaissance et l'identification du lieu. Et donc à l'entrée, on avait un grand panneau sur lequel le logo du centre d'art apparaissait, les églises, centre d'art contemporain. Donc c'était sur plusieurs lignes écrites. Et lorsque la ville est arrivée, elle a demandé au service technique de venir avec une disqueuse découper le mot contemporain à la fin du panneau, de manière à ce qu'il n'apparaisse plus. Ce faisant, elle ruinait la charte graphique de Frédéric Techner. Elle ruinait aussi le design du panneau d'affichage qui avait été établi par le designer qui avait été sollicité sur l'aménagement. Bref, il y avait un rapport d'outrage, d'outrance vis-à-vis à cette réalité qui, pour eux, était de l'ordre d'une forme d'exutoire, en fait. Et donc, cette violence-là, on peut peut-être utiliser ce terme, me semblait assez révélatrice de la manière dont le propos politique qui portait ça et qui n'était pas préparé à autre chose que de détruire cette idée d'art s'est manifesté à ce moment-là. Et donc, c'est quelque chose d'assez, encore aujourd'hui pour moi, révélateur, en fait, de ces formes très particulières dans lesquelles les histoires se terminent et qui sont souvent un abrutissement total de la donnée préexistante, en fait, de la réalité qui était et de l'histoire qui s'était construite. Il y avait quelque chose d'assez incroyable.
Pourquoi buter sur ce mot ? Enfin, qu'est-ce qu'il représente ? Enfin, je pense qu'il faut avant tout se poser cette question-là. C'est une question esthétique. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. On assimile, c'est une forme d'étiquette comme les canapés contemporains ou le design contemporain. Je pense qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, donc qui serait une esthétique d'une forme d'art qui serait pas classique, en fait, tout simplement. Je pense que ça va pas au-delà de ça. Évidemment, pour nous, en tant qu'artistes ou enfin voilà, acteurs sur ce type de projet, c'est pas à cet endroit-là, c'est pas une question esthétique, c'est pas du tout les questions qu'on cherche à valider ou à invalider, ça se joue pas là. Et c'est d'ailleurs, je pense, qu'il y a laissé aussi une espèce de quelque chose un peu de flottant comme ça à cet endroit. Effectivement, aujourd'hui, donc l'appellation centre d'art contemporain au sens de pratique validée dans un rapport historique par les institutions dont le centre d'art pouvait faire partie. Aujourd'hui, donc, il n'est plus contemporain dans l'appellation art contemporain. Par contre, effectivement, les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, on travaille avec des artistes de création contemporaine, peut-être, si on contourne un peu cette problématique-là. La question esthétique, elle reste problématique, ça c'est évident. C'est plus l'esthétique qu'elle représente que le mot en lui-même. La question se déporte, c'est-à-dire qu'effectivement, sur des enjeux d'art contemporain, pour les nommer comme ça, comme à l'époque du précédent projet, la seule chose qui compte, c'est la dimension de recherche, la dimension esthétique, les enjeux de ce que porte l'artiste. Et quelque part, ce qui est montré, les médiums, le format, les œuvres, les formes, finalement, tout ça... Tout ça et découle. Et on ne s'interrogera pas si c'est beau, si c'est moche. Enfin, c'est la recherche qui prime et l'artiste détermine son vocabulaire, etc. Aujourd'hui, évidemment, je ne vais pas dire qu'on le prend à l'envers parce que ce n'est pas vrai. Je ne travaille pas par les formes de ce que les artistes proposent. Mais j'identifie des formes dont je sais que les esthétiques... interrogeront moins ou seront moins dans le champ d'un questionnement politique, enfin voilà, tout en remettant quand même, une fois que l'artiste est validé sur la saison, la question du propos, de sa démarche, comme de l'élément moteur du projet, évidemment. Il y a un peu toujours deux temporalités, c'est-à-dire qu'on reste quand même un projet... fragile, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, avec peu de moyens, c'est pas toujours évident, on n'est pas très nombreux, beaucoup de choses ont été internalisées, donc on fait des choses, je veux pas dire le contraire, on arrive, mais il faut toujours un peu joindre les deux bouts, quoi. Faut porter le projet. Donc évidemment, ça fait partie des ambitions du projet, c'est-à-dire d'être un petit peu plus confortable, quoi, d'accueillir les artistes de manière un petit peu plus adaptée, d'autant plus que ce lieu le demande. C'est-à-dire que les églises, enfin, C'est un lieu sur lequel on a toujours travaillé là, des propositions adaptées au lieu et singulières en fonction de cette architecture très particulière, une architecture sacralisée. Et pour parler du temps présent, parce que finalement, il y a aussi, malgré tout, cette continuité permanente un peu à assumer. Hein. La permanence, elle est aussi au quotidien, au jour le jour. Et je crois que finalement, en tant que responsable aujourd'hui, c'est particulièrement celle-là que j'endosse, cette permanence-là. Elle est finalement, par exemple là, tu l'as vu tout à l'heure, d'accueillir des artistes en résidence pendant l'été, de trouver aussi finalement des alternatives, peut-être pas, mais des moyens un peu de substitution aux moyens qui manquent, là où l'argent sonnait et trébuchait avant. Aujourd'hui, on prend le temps, on trouve d'autres alternatives, et on fait quand même. Et je crois que c'est avant tout, je pense, la force de ce projet-là aujourd'hui, c'est de faire les choses malgré tout, malgré ce qu'on a plu. Et cette continuité, je pense que moi, c'est ce qui fait que ça existe encore. C'est ce qui fait que je tiens ici.